Vous avez été nombreux à le voir hier sur notre extrait de médias sociaux. Il était là pour les premiers coups de patin, comme beaucoup de gens, dont Brendan Shanahan, d'ailleurs, hein, pour les premiers coups de patin de Ivan Demidov. Mais il a regardé le match de la galerie de presse hier à Toronto pour le compte de RDS avec son œil avisé. Et il est là aujourd'hui pour tout nous décrire et analyser. C'est le Big Patty Ice Friolet. Comment ça va, mon Pat?
Ça va très bien, Greg. Salut, Greg. Salut, Oli.
Es-tu stressé un peu, Pat, pour les éliminatoires? Moi, hier, j'ai regardé le match et je sais pas si c'est ma femme qui me transmettait cette nervosité incroyable. En prolongation, les 36 secondes que ça a duré, elle a même pas voulu regarder avec le coussin du divan dans le visage. Es-tu nerveux un peu ou selon toi, là, ça va se faire aujourd'hui avec une défaite des Jackets? Comment tu vois ça?
Ben, nerveux, non. Préoccupé, oui. Parce que c'est clair que en même temps, les Blue Jackets, il leur reste trois matchs, incluant celui d'aujourd'hui, à disputer. Ils doivent gagner les trois. Washington, Philadelphie, les Islanders. Donc, ils ont quand même battu les Capitals 7-0 hier. Est-ce qu'ils peuvent battre les Capitals comme ça deux matchs de suite? Je sais que les Capitals avaient laissé des joueurs de côté, mais bref, pour ce qui est du Canadien... c'est sûr qu'on sent, on a entendu parler Martin Saint-Louis, parler de l'énergie, parler du fait qu'on va chercher le maximum de jus qu'on est capable d'aller chercher. Là, on sent qu'il commence à en manquer. Puis les premiers signes de fatigue dans une équipe, quand on a des problèmes, ben c'est le mental. C'est des petites erreurs qui vont se multiplier. Sauf que je trouve pas que le Canadien, dans le match contre les Maple Leafs, a fait beaucoup d'erreurs en tant que tel. C'est surtout le fait que oui, on avait moins de lucidité offensivement, c'était plus complexe, on s'est beaucoup défendu, mais je voyais des commentaires défiler tout au long de la soirée, puis tout le monde s'inquiétait du nombre de tirs. Puis les tirs au but disent pas tout. Tu sais, oui, c'est un instrument de mesure dans un match, puis c'est sûr que quand il y a un tel écart, à un moment donné, je pense que c'était 28-5, on comprend qu'il y a une équipe qui a plus l'avantage sur l'autre.
Ouais, ça ressemblait au Super Bowl entre les Patriots puis les Falcons, là. Ça ressemblait à peu près à ça, mais les chances de marquer, Pat disait, et les statistiques avancées, là, notamment avec les buts attendus, je sais pas si je l'ai bien traduit, mais nous donnait un tout autre match au niveau statistique, là.
Ben, au niveau des occasions de marquer à 5 contre 5, ça s'est terminé 9-9. Donc, à ce niveau-là, le Canadien, puis moi, je les compte de mon côté, il y en a eu des occasions de marquer pour le Canadien. C'est juste qu'on n'a pas été capable d'obtenir des tirs sur le filet. Rappelez-vous Cole Caulfield qui fait une belle percée, qui se faufile vers le filet, envoie ça complètement par-dessus. Il y a eu des occasions où on n'a pas réussi à en tirer profit. Puis du côté des Leafs, ben, il y a eu un plus gros volume de tirs, mais il n'y a pas eu tant de tirs dangereux qui étaient vraiment très menaçants, mis à part certains moments où, justement, Jakub Dobesch a été excellent. Gros arrêt là, contre Tavares qui frappe à la porte. Puis moi, c'est l'arrêt qui m'a le plus impressionné. Oui, il y a eu le gros arrêt contre Robertson, mais un peu plus tard, il est complètement à l'extérieur de son filet. Il fait une poussée pour revenir, une autre poussée, puis il se dresse devant Mitch Marner qui tirait. Honnêtement, Jakub Dobesch mérite vraiment qu'on le salue pour cette victoire-là du Canadien, mais en même temps, le Canadien n'a pas été capable de s'établir autant en zone offensive, mais c'est surtout les avantages numériques qui ont fait en sorte que les Leafs ont été très menaçants, puis qui ont peut-être influencé la statistique du nombre de tirs.
Ben, on s'est établi en première période où est-ce qu'on a dominé largement en temps de possession de rondelles, là, notamment. Puis pour revenir à Dobesch, là, parce qu'on reviendra sur les autres statistiques, là, j'ai adoré ses réponses à tes questions. Après le match.
J'ai essayé de le faire parler. Je voulais t'en parler comme quoi ça avait été un moment spécial. Là. On a bien rigolé, mais je pense qu'il était fatigué et il n'avait pas trop le goût d'embarquer dans l'analyse.
Ah, tu peux y aller, peut-être répondre. Tu as dit ah, les arrêts que tu as fait sur Marner, il t'a regardé. C'était Marner?
Oui, exact.
Il ne savait pas trop les joueurs qui étaient sur la glace.
Il nous a clairement dit, écoutez les gars, moi j'ai aucune idée qui est sur la glace. Tout ce qui me préoccupe, c'est la rondelle. Puis tu sais, c'est en même temps, on sait les gardiens ont tous leur approche différente. Si on parle à Samuel Montembeau du match, il va être capable de bien l'analyser. Dans le cas de Jakub Dobesch, je pense qu'il y a de ça où c'est un gars qui se concentre sur la rondelle, mais il y a peut-être aussi du fait que c'est un gars qui est plus jeune, qui est peut-être un peu plus dans sa tête présentement à vouloir vraiment très bien faire, puis se concentre seulement sur la rondelle et uniquement la rondelle, puis ça a fonctionné. Écoute, dans les deux derniers matchs, 71 arrêts sur 73 tirs. Donc, ça a bien fonctionné. Contre les Prédateurs de Nashville, on avait l'impression en début de match, qui se battait beaucoup avec la rondelle, échappait des rondelles, mais en même temps, il faisait les arrêts. Puis par la suite, en troisième, a été vraiment meilleur à ce moment-là, puis a fermé la porte. Contre les Leafs, il a été très solide de bout en bout. Il a fait les gros arrêts quand il a eu besoin, mais sinon, c'était des rondelles où le Canadien était quand même bien positionné pour bloquer des tirs. On a fait le travail devant lui, puis quand on a eu besoin de lui, il a été capable de faire les arrêts. Mais dans le cas de Dobesch, c'est ça. Je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue mentale à la fin de ce match-là où il était épuisé. Puis quand il a été questionné encore en fin de match, en fin de point de presse, il a dit, écoutez, les gars, j'ai juste envie d'aller me reposer, là, je pense. Donc, ça a été une grosse soirée pour Jakub
Mettons qu'il a dû tomber à pleine face dans son lit. Ça,
Dobesch.
c'est certain et c'était mérité. C'était une
Oui.
performance étincelante de sa part. Et tu sais, tu dis, j'ai envie d'aller me reposer. Il y en a peut-être d'autres dans l'équipe qui ne vous l'ont pas dit, mais qui avaient ce sentiment-là. Puis on l'a senti hier. Il y en a, pour citer Martin Saint-Louis, tu sais, on tire tout ce qu'on a de jus. Puis la foule à la maison, elle nous remplit de jus. Je le cite mot à
Ouais.
mot. Il y en a qui commencent à manquer de carburant. Puis écoute, Juraj Slafkovský est probablement un de ceux-là.
Y en a plusieurs, c'est sûr. Mike Matheson, à mon avis, n'est pas l'ombre de lui-même dans les 4-5 derniers matchs. On ne voit pas la même étincelle dans son coup de patin. Il est moins à l'aise, il fait quelques petites erreurs mentales.
Une
Mais
chance
dans le cas.
hier, en désavantage numérique, très bon, mais une chance hier qu'il y avait Carrier avec lui, Carrier qui a connu tout un match, à mon avis.
Oui, absolument, absolument. Chapeau à Alexandre Carrier, puis il a été capable de. Les moments où le Canadien a tenté de passer un peu plus de temps en zone offensive, ça venait surtout avec le premier trio, puis ça venait quand Carrier était sur la glace, puis il a été capable de. Il a ce réflexe-là où, quand la rondelle est dans le coin de la patinoire, puis monte un peu, il est capable d'aller fermer le bord de la rampe pour garder la rondelle en zone offensive. Ça, il l'a fait dès le début à ses premiers matchs avec le Canadien. C'est quelque chose que j'avais remarqué. Puis il continue de bien le faire. Il choisit bien ses moments. Puis c'est rare qu'on va voir Alexandre Carrier se faire prendre à contre-pied ou commettre un revirement qui va mener à une attaque de l'autre équipe. Donc, à ce niveau-là, oui, il a été constant. Mais pour revenir à Juraj, dans le cas de Juraj Slafkovský, ce qui est dommage, c'est que on en a parlé un peu hier, il doit être plus actif, il doit bouger un peu plus. Puis ce que je remarque, c'est qu'on revoit le Juraj Slafkovský qu'on voyait en première moitié de saison l'an dernier, où il y a la rondelle, il reçoit la rondelle, puis ses pieds ne se mettent pas en mouvement automatiquement. Donc il lève la tête, il cherche une option, puis là il tente une passe transversale. Il a fait ça deux ou trois fois dans le match d'hier en zone neutre. Puis là, ben, il y a des endroits où tu peux pas commettre des revirements comme ça parce que ça fait mal, parce que c'est sûr que ça devient un 3 contre 2 ou un 2 contre 1. Et là, on voit Juraj Slafkovský refaire certaines de ces erreurs-là. Il a perdu aussi des batailles qu'il ne peut pas perdre. On est en fond de territoire, la rondelle est dans les airs, elle tombe, puis là, il l'a sur son bâton, puis finalement, il se fait battre à un contre un, perd la rondelle, puis là, l'attaque tourne de côté. C'est des petits détails. Mais c'est des moments justement dans un match comme celui-là où tu veux passer plus de temps en zone offensive, ben il faut que tu
Ouais.
sois capable de garder cette rondelle-là profondément chez l'adversaire, de prendre une bonne décision, puis de renvoyer la rondelle au défenseur dans le territoire offensif pour faire circuler tout ça, puis maintenir possession de la rondelle. Puis c'est ça qu'on veut. On parle beaucoup d'un gars comme Yoel Armia qui est excellent pour protéger la rondelle. Ben Juraj Slafkovský, quand il a la rondelle autour de lui, il doit être capable de bien la protéger, d'utiliser son corps. Puis là, à ce niveau-là, ça a été plus difficile dans les derniers matchs pour lui.
Ouais, Yoel Armia, qui, on le sait, là, est clairement diminué au haut du
Oui,
corps,
ça c'est sûr. Oui.
mais a de l'air diminué au niveau de l'énergie ou du bas du corps également. Là. Je ne sais pas, là, mais d'après moi, c'est le premier nom qu'on va vouloir reposer si toutefois les Blue Jackets perdent un petit peu plus tard aujourd'hui ou après le match de demain. Là, on verra qu'est-ce qui va arriver selon les scénarios de qualification en séries éliminatoires. Parlant de ça, pour la
Sais-tu,
visite.
excuse-moi de te couper, Greg, mais
Je t'en
c'est quoi
prie.
l'image que j'ai en tête? C'est comme un jeune garçon de 7-8 ans qui veut sortir de la piscine. Puis là, il se pousse avec ses bras. Puis là, il essaie de sortir, puis il pousse, il pousse, il pousse. Puis là, quand il arrive, il réussit à mettre une jambe sur le bord de la piscine, puis là, il retombe dans l'eau. Là, tu veux vraiment l'aider à sortir, puis c'est le petit niveau d'énergie qui manque en ce moment aux Canadiens pour aller chercher cette dernière victoire-là pour confirmer leur place en série. Puis on presse, on presse, on fait tout ce qu'on peut. Puis, tu sais, honnêtement, il faut juste saluer quand même l'effort. Les Leafs, là, c'était une grosse équipe. Puis le Canadien jouait quand même deux matchs en deux soirs. Donc, il faut quand même mettre les choses en perspective. On voit beaucoup les choses
Non,
négativement
non, puis
présentement,
regardons, là, regardons.
mais.
Tu sais, Yoel Armia est blessé. Jake Evans, je ne sais pas si on peut dire blessé, mais incommodé. Je pense que c'est le bon mot. On le sait. Michael Pezzetta, tout le monde a vu son doigt. Je veux dire, tout croche après. Il a joué quand même hier. D'ailleurs, cette pénalité-là, hein, ça va être correct. Là. On s'en reparlera, cela étant dit. Celle-là, puis deux autres aussi. Là, ça, c'est, bref. Là, c'est un portrait différent qu'on risque de voir lundi, demain soir, contre les Blackhawks. On sait, ça n'a pas été confirmé, mais écoute, on va évaluer les chances qu'Ivan Demidov fasse son entrée à Montréal au même pourcentage que celui qu'on participe aux séries éliminatoires, qui est de 98,7% présentement. Et aussi, Emil Heinemann, je vais te poser une question dans un français impeccable. Coudonc, qu'est-ce qu'il y a?
Moi, ce que je soupçonne dans le cas d'Emil Heinemann, c'est des symptômes de commotion. C'est le genre de situation où on ne nous en parle pas, on ne nous donne pas trop de détails. C'est souvent comme ça dans ces cas-là. Rappelez-vous, le match contre les Bruins de Boston, Emil Heinemann a quitté vers le vestiaire pendant quelques instants, puis est revenu au jeu par la suite. Ça fait quand même, c'était le 3 avril. Par la suite, il y a eu le match contre Philadelphie, où il a joué. Puis ensuite, à Nashville, on nous a appris que... c'était pas le match à Philadelphie, mais c'était contre Philadelphie à domicile. Puis on nous a appris que pour le lendemain, Emil Heinemann était en évaluation quotidienne, mais il était quand même à Nashville. Puis finalement, a raté les matchs qui ont suivi. Puis là, est-ce que c'est une épaule? Est-ce que c'est la tête? Ça, on le sait pas. On ne donne pas vraiment les détails à ce niveau-là. Sauf que moi, je crois que si Emil Heinemann était en santé, il aurait probablement joué le match d'hier. Est-ce qu'on veut être prudent? Est-ce qu'on veut être trop prudent? Est-ce qu'on voulait donner le match aux joueurs qui avaient joué la veille? J'en doute, là. Donc, quand j'ai vu Emil Heinemann patiner pendant une heure le matin, j'étais sûr et certain qu'il n'allait pas jouer le soir même. Ça, c'était évident. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait probablement le revoir lundi contre les Blackhawks. Puis cette énergie-là va aider grandement parce que, comme je le mentionnais, c'est un gars qui est extrêmement bon en échec avant, qui ne se pose pas de questions, qui joue de façon simple pour mettre de la pression sur l'adversaire. Puis c'est ce qu'on a besoin présentement.
Oui, effectivement. Et tu insères Heinemann, Demidov et tu retires probablement quoi, Kapanen et Pezzetta. Et voyons voir en défensive si on donne un match à Herbert Jacquet qui le mériterait, je crois. Et tu sais, quelle attitude exemplaire hier. On l'a vu là, sur la glace, là, rentre. Non, il arrive devant les caméras. Il dit non, c'est pas moi que vous attendez. C'est pas moi que vous attendez. Puis il a pris... il a pris Demidov par l'épaule pour ses premiers coups de patin. Un coéquipier exemplaire. Et je pense qu'il pourrait amener une énergie intéressante contre les Blackhawks de Chicago, qui eux autres aussi vont arriver diminuer. Je ne sais pas si tu as suivi ça hier. En fait, je pose la question en sachant très bien que tu as suivi ça hier. Il y a une légende des Kings de Los Angeles qui joue pour les Blackhawks de Chicago. On va en parler avec Oli un petit peu plus tard, qui a décidé qu'il annonçait sa retraite, lui, à la maison pour pas faire le voyage de fin de saison. Donc, c'est sans Alec Martinez, c'est sans... voyons, comment il s'appelle?
Pat Maroon,
merci, excusez. J'ai eu un blanc de mémoire d'un instant, qui ont pris leur retraite et qui feront pas le voyage à Chicago aussi. Puis eux autres, ils ont hâte que la saison finisse également.
Oui, c'est clair. Ils ont hâte que la saison finisse. En même temps, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Ils nous l'ont démontré dans les...
hier encore.
Dans la dernière... Oui, encore une fois. Puis c'est une équipe qui se bat quand même, honnêtement, qui fait... qui sera pas nécessairement facile à tasser. On a une certaine fierté d'aller chercher des résultats pour terminer la saison. Puis c'est une équipe qui fait quand même partie du top 10 là, dans la tranche de 10 derniers matchs. Ils font partie du top 10 de la LNH pour le nombre de buts marqués. Donc, ils sont capables d'en marquer des buts. Là, à ce moment-là, ce qui n'est pas inquiétant présentement, c'est que le Canadien, honnêtement, il faut le dire, se défend bien.
Très.
Ça a pas, t'sais, contre les Leafs, d'avoir une prestation défensive comme ça, il faut quand même le saluer, même si, oui, on a eu besoin d'une solide performance de Jakob Dobesch. Le jeu défensif, ça n'a pas été très fort contre les Sénateurs d'Ottawa, surtout en début de match. Ça s'est corrigé un peu par la suite, mais là, on le répète, il faut que le Canadien arrête de dire qu'on se corrige. Puis moi, ce que j'aimerais voir dans le duel contre les Blackhawks, c'est voir le Canadien mettre la pression puis établir son jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Canadien vraiment s'imposer face à l'adversaire, de montrer que le Canadien joue son style, puis l'autre équipe se défend plutôt que ce soit le Canadien qui subit la pression dès le départ, puis ça change tout dans un match de hockey. Quand on arrive à s'imposer au début du match, ben, il y a une dynamique qui s'installe où l'adversaire est un petit peu plus dans les câbles. Puis là, ben, ça, on l'a senti. Les Sénateurs
Ouais.
l'ont senti dès le départ. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils ont mis de la pression. Ils ont marqué dans la première minute de jeu. Puis ça s'est transposé sur tout le. Ça a déboulé sur le reste du match. Donc, ce serait important que le Canadien utilise cette énergie-là à domicile devant ses partisans lundi pour attaquer les Blackhawks et prendre le dessus.
Pat, merci. Bon voyagement de retour à la maison. On se voit au match demain. Je pense qu'on va vivre quelque chose de très, très spécial demain soir. Merci encore pour ta participation en fin de semaine et ben, à samedi prochain aussi.
Ça fait plaisir et effectivement, on a hâte de voir Ivan Demidov en action. Je pense qu'il va être bon, lui. Je
Ouais.
pense qu'il va être bon.
Bref, écoute, on va clipper cette opinion de ta part puis on regardera ça ensemble. Mais je pense que je suis pas mal d'accord avec toi. En tout cas, je pense que j'ai hâte et qu'on a hâte de le voir jouer demain. Ça, c'est sûr.
Absolument.
Salut mon Pat,
Merci les gars.
merci.